Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Elisabeth, bah écoutez, nous on est arrivés sur le secteur il y a une trentaine d'années, on a connu l'abbaye dès le départ et ça a été notre point de repère, une façon de prier qui est tout à fait particulière, très contemplatif, c'est très calme, enfin, c'est très reposant de venir assister à une messe ici et leur départ c'est pour nous vraiment une souffrance quoi.
Qu'est-ce que vous voudriez leur dire aujourd'hui ?
À ses frères, hein. Oui. Oh, grand espoir parce que Dieu est là et il faut beaucoup espérer, beaucoup prier et rester dans la joie, la confiance.
Daniel, oui, on est venu aujourd'hui. Bon, on aurait dû venir beaucoup plus tôt et beaucoup plus souvent. On regrette, c'est un peu dommage, hein, mais on est venu aujourd'hui puisque c'est un événement quand même, hein, cette clôture. Voilà. Et en même temps, moi je suis un peu triste parce que quand même ça représente la fin d'une longue histoire du monastère.
Dans quelques jours, en effet, après 168 années de présence féconde, les 8 moines cisterciens de l'abbaye Sainte-Marie du Désert auront quitté ces lieux dans lesquels ils étaient entrés il y a plus de 70 ans pour certains, et ce, pour ne jamais plus en repartir. Pourtant, comme nous le disait le père abbé, le père Pierre-André, rencontré quelques jours avant ces journées d'action de grâce des 1er et 2 octobre, les moines vivaient heureux au sein de cette abbaye.
Voilà, c'est, je veux dire, à contre-cœur que nous quittons le lieu, parce que nous sommes, je pense que je peux dire au nom de tous mes frères, qu'on est heureux de vivre à Sainte-Marie du Désert. Certains y sont depuis, notre centenaire y est depuis 79 ans, et deux frères plus jeunes y sont depuis, enfin plus jeunes, ils y sont depuis l'année de ma naissance. Donc ils ont 57 ans de présence dans la maison. Donc c'est clair que c'est un arrachement pour tous de quitter un lieu où on a créé, tissé une vie fraternelle, autour de, dans le travail, dans la célébration de la liturgie. Voilà. Et puis, tisser des liens aussi avec tous les environs, les agriculteurs, les voisins proches, etc. Donc, il y a un fort tissu social, relationnel qui s'est tué. Oui, un grand enracinement depuis 168 ans. Donc, dans le canton, on est considéré comme la prunelle de l'œil du canton, quoi. Hein. Vous partez, mais c'est pas imaginable. Comment est-ce que c'est possible?
h 30, ce samedi 3 octobre, dans l'église de l'abbaye. Pour remercier les moines, leur dire leur amitié, leur tristesse à les voir partir, pour les accompagner dans ce temps de passage vers leur nouvelle vie, ils sont venus nombreux, très nombreux. Voisins, amis, fidèles, membres de congrégations religieuses, prêtres du diocèse. Rassemblés autour de Mgr Legal, ils rendent grâce pour ces 168 années de présence monastique. 168 années qui ont ensemencé la terre et les cœurs.
Claude, alors moi j'ai connu l'abbaye en 1993, et dans des conditions où j'avais besoin de certains soutiens. Et j'ai donc découvert cette abbaye, que je n'ai jamais quittée depuis. Je ne suis pas rentré chez les moines, mais je suis toujours revenu les voir avec plaisir. Et ça fait depuis que ça dure, et pour moi aujourd'hui, bien sûr, c'est un jour de grande tristesse quand même si c'est un jour de fête, puisque le projet qui arrive est très bien, mais on sait qu'on ne verra plus nos petits moines, ouais. Et ça c'est ouais. Terrible pour tout le monde.
Ils ont été une lumière dans votre vie, accompagnement.
Oui. Un accompagnement, oui. Ah, oui. Un accompagnement perpétuel. Ils ont toujours été là, et ils ont, pour bien des choses, c'était une sorte de thérapie spirituelle et en même temps humaine. Voilà.
Oh, ben, moi, j'ai rencontré l'abbaye suite à une retraite en 2014, début 2014.
Votre prénom, c'est
Valérie. Et un vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur. Et un moine en particulier. Donc c'est très émouvant, oui.
Benoît, moi j'ai connu l'abbaye en 68, après mai 68. On est venu travailler dans l'hôtellerie ici pendant un mois, bosser. Et puis après, on a déménagé, et puis on est revenu sur Pibrac pendant assez longtemps. Et donc on avait des liens assez réguliers avec l'abbaye, on y a fait des retraites, on y a organisé des retraites. Et moi j'avais un conseil spirituel sur ici, donc je pense que c'est vraiment un haut lieu spirituel et qui va beaucoup manquer sur Toulouse. Alors
aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez un peu orphelin?
Oui.
Ah oui, tout à fait.
Complètement.
Ah oui.
Complètement.
Orphelin, oui, mais c'est la vie. Ouais. Je veux dire qu'on fait un chemin avec eux. Et ce chemin, il ne nous appartient pas. Et donc, il faut le laisser aux autres aussi, qui vont profiter de leur présence là où ils seront.
Ben Albert,
oui.
J'ai passé une semaine ici, il y a quelques années. Ça m'a beaucoup frappé. Et je me suis posé la question maintenant, pourquoi cet établissement va disparaître, va fermer.
Et effectivement, la vie monastique donne souvent l'image de la stabilité, la pérennité. Ils ont été toujours là, pourquoi est-ce qu'un jour ils vont partir, quoi. En fait, on est arrivé à cette décision assez progressivement. Nous nous sommes rendus compte, donc, d'une part, de l'importance du patrimoine à entretenir. Nous avons mesuré aussi que nos forces en nombre et en personne diminuaient. Donc, quand je suis arrivé ici en 1996, nous étions quasi une quarantaine. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à 8. Donc du coup, on s'est rendu compte que si on continuait à vivre comme ça, on risquait de courir à l'épuisement et qu'on passait à côté de l'essentiel de notre vie monastique. On n'est pas là pour courir, boucher les trous. Donc progressivement, donc j'ai initié quelques années après mon élection, donc en 2016. Oui, j'ai été élu en 2013, mais j'ai initié la réflexion en 2016, donc c'est assez vite après. Je me suis rendu compte, avec le départ des frères, que ce soit des frères qui quittaient la vie monastique pour telle ou telle raison, bon, peu importe, les frères qui mouraient, et l'absence de recrutement, que si on ne réfléchissait pas à notre avenir, on risquait de courir face au mur, et qu'il était peut-être préférable, même si c'était douloureux, de regarder la réalité en face, que de se précipiter tête baissée vers « de toute façon, on va continuer ».
L'inéluctable.
Alors justement, nous voulions éviter l'inéluctable, c'est-à-dire que la chose s'impose à nous, et qu'un jour on vienne nous dire « mais mes chers frères, ce que vous vivez c'est très beau, mais vous n'êtes plus en capacité de le vivre, donc on décide pour vous de fermer la maison ». Et alors les frères sont entrés dans cette logique, même si à nouveau c'était douloureux, d'oser regarder la réalité en face et de se dire, ben oui, nous sommes pauvres en nombre, le bâtiment est important, nos forces diminuent, il faut faire quelque chose. Et mon objectif, c'était de permettre aux frères d'être, alors il faut mettre des nuances parce qu'on n'est jamais totalement maître de son histoire, mais au moins maître des décisions que nous portions sur notre destinée.
Au terme de 2 années de réflexion, de cheminement, de discernement et à l'occasion d'une visite canonique, c'est ensemble et très démocratiquement, à l'issue d'un vote, que les 8 moines prennent la décision d'aller vers une fermeture de la maison. Décision cependant douloureuse. Le père abbé parlait d'arrachement pour ces 8 moines qui avaient fait vœu de stabilité.
Je dirais, les deux sont liés aussi. Hein. Donc, assez souvent, quand j'accompagnais des jeunes, la jeunesse et l'adolescence, c'est la période des expériences. Et c'est sage, ou c'est heureux que des adolescents fassent des expériences, je ne vais pas dire dans tous les sens, mais voilà, hein, qu'ils fassent des expériences multiples, qu'ils découvrent les choses. Mais à un moment, on ne peut pas vivre toutes les vies en même temps, il faut en choisir une. Et l'image que je leur disais, c'est que si vous transplantez, non, pour qu'un arbre porte du fruit, il faut que vous le plantiez, c'est clair, parce que sans racine, il ne poussera pas. Mais si vous le transplantez chaque année, vous dites, oh non, cette année, oh, il est mal placé là, je vais peut-être le mettre ailleurs. Oh non, non, je l'ai mal mis là, je vais le remettre encore ailleurs. C'est un arbre qui va être en permanence obligé à faire des racines vers le bas, mais il ne pourra jamais porter du fruit. Donc la question de la fécondité, enfin plutôt la fécondité est liée à la stabilité. On ne peut pas porter du fruit s'il n'y a pas un minimum de stabilité, de maturation, etc. Et du coup, effectivement, arracher un arbre, je vous parlais de deux frères qui ont 57 ans de présence, notre centenaire qui a 79 ans de présence, c'est les déraciner pour aller les mettre ailleurs. Voilà. Donc du coup, c'est un réel arrachement. Mais néanmoins, et c'est là la contrepartie, ou le contrepoint, c'est pas une contrepartie, c'est plutôt un contrepoint, c'est que nous avons, dans la réflexion qu'on a menée, dont je vous ai donné les détails tout à l'heure, on a retracé le parcours, on a souhaité inscrire cette réflexion en termes de fécondité. C'est-à-dire que si nous acceptons de mourir, arrachement, d'être transplanté, c'est pas mourir pour mourir, mais c'est mourir pour donner la vie. Et l'image qui nous est venue aussitôt, lorsqu'on a pris le vote en 2018, c'était celle de l'évangile de Saint Jean. Le grain qui n'accepte pas de mourir ne porte pas de fruit. Et ce n'est que dans la mesure où il accepte de mourir qu'il portera du fruit au centuple. Donc on a voulu vivre ce processus de réflexion dans cette perspective de résurrection, mort et résurrection. Arrachement pour la fécondité, la vie, la mort pour la vie. Et c'est ça qui donne d'une certaine manière aux frères une forme de joie à vivre ce que nous avons à vivre, même si ce n'est pas sans émotion comme vous l'entendez. Voilà.
Et la dispersion aussi.
Alors la dispersion, c'est un peu comme dans les Actes des Apôtres, la persécution primitive de l'Église. Donc quand les Juifs à Jérusalem, le grand prêtre à Jérusalem, on va attraper Pierre, on va attraper les apôtres. Donc en fait, il y a sans doute, on peut imaginer un moment de panique. Et donc les apôtres ont décidé de quitter Jérusalem. Donc je vais prendre la même image de la fécondité on voit dehors, là, le vent, il est en train de souffler. Ça permet aux petites graines qui sont emportées par le vent d'être transportées, d'être ensemencées ailleurs. Donc je dirais c'est pareil pour nous, nous quittons un lieu, mais c'est pour être plantés ailleurs, et que dans cet ailleurs où nous serons plantés, il y aura aussi espérance d'une fécondité. Donc du coup, chaque frère va vivre différemment cette réalité-là, mais voilà, moi je sens aujourd'hui tous mes frères, aucun plutôt n'est dans la nostalgie.
Ils sont dans la paix.
Ouais. Dans la paix du consentement, comme Jésus a dit sur la croix, tout est consommé. Hein. Voilà, nous sommes allés jusqu'au bout, et ce jusqu'au bout, c'est la vie. Donc moi, j'ai laissé la liberté, comme le droit canon d'ailleurs l'exige. Hein. J'ai laissé les frères choisir le lieu où ils souhaitaient aller, en insistant sur le fait que, en leur disant, il faut que ce que vous choisissiez, ce soit pour la vie. N'allez pas vous enterrer, ou je ne sais pas comment, que ce soit pour la vie. Si c'est pour mourir, ça n'a pas de sens. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment pour la vie.
J'appelle maintenant chacun des frères pour qu'ils viennent se placer. encore aussi bien de place devant mes frères et sœurs du village de François pour recevoir la bénédiction de l'archevêque. Le père Guy qui est déjà là, bien qu'il soit sourd et centenaire. Que le Seigneur rende féconde votre éternelle jeunesse et votre prise d'altitude. Vous êtes accompagné de frère Michel, je ne sais pas où il est, mais je veux bien avancer, de ta charité, frère Michel, à Notre-Dame-des-Neiges pour accompagner Père Guy, ou ensuite à Scourmont, en Belgique, soit une bénédiction pour tous et continue. Père Guéric, tout le monde sait que Père Guéric a pris un aller simple pour le paradis. Bon serviteur, vous voulez partager votre expérience avec la petite fille du désert.
Pierre-Henri, puis ce qui me rassure aussi, c'est que ce lieu va rester un lieu de prière, donc avec l'arrivée là, du village de François, et donc voilà.
Un lieu de prière et d'accueil aussi.
Et d'accueil, oui, bien sûr. Un lieu de prière et d'accueil, et que finalement, il va pouvoir y avoir une forme de continuité dans cet accueil pour toutes les personnes qui viennent se ressourcer. Ça prendra une forme différente, mais ça restera peut-être d'actualité. Notamment, j'ai une petite pensée à la nouvelle encyclique là, que le pape est en train de sortir. Sur la fraternité sociale. Donc voilà, peut-être qu'il y a aussi des nouvelles manières de penser les lieux de prière. Et le village de François en sera peut-être un exemple. Et merci beaucoup aux moines pour tout ce témoignage qu'ils nous ont donné pendant toutes ces années.
Merci beaucoup.
Valérie, je crois que c'est un beau relais que de passer la maison au village de François.
Si les moines quittent Sainte-Marie du Désert, l'abbaye ne va pas fermer pour autant. Elle va continuer à vivre autrement, avec le village de François. Père Pierre-André.
Fort de la décision que nous avions prise de la fermeture, il fallait que nous cherchions d'autres pistes. Et donc depuis 2019, j'ai cherché à gauche, à droite, qui pourrait reprendre le site, à qui transmettre le patrimoine. Et finalement, nous avons rencontré le village de François, en janvier 2020, donc en fait c'est tout frais, ça fait 9 mois, en janvier 2020, donc une annonce sur le site de la COREF. La COREF, c'est la Conférence des religieux et religieuses de France. Et puis sur ce site, il y avait une petite annonce, le village de François cherche un patrimoine à la campagne avec un bâti important et des terres cultivables. Donc je les contacte et quasi immédiatement, j'ai un retour de courrier, on est intéressé, on vient voir. Un contact avec les frères de la communauté et le courant est passé assez rapidement. Et donc depuis janvier 2020 jusqu'en octobre 2020, bien nous avons eu des échanges, des temps de travaux communs, de réflexion, de négociation aussi pour aboutir à voir comment transmettre le patrimoine. Ah ouais. Voilà, c'est une longue histoire. Fort de la décision que nous avions prise de la fermeture, il fallait que nous cherchions d'autres pistes. Et donc depuis 2019, j'ai cherché à gauche, à droite, qui pourrait reprendre le site, à qui transmettre le patrimoine. Et finalement, nous avons rencontré le village de François en janvier 2020. Donc en fait, c'est tout frais, ça fait 9 mois. En janvier 2020, donc une annonce sur le site de la COREF. La COREF, c'est la Conférence des religieux et religieuses de France. Et puis sur ce site, il y avait une petite annonce. Le village de François cherche un patrimoine à la campagne avec un bâti important et des terres cultivables. Donc je les contacte et quasi immédiatement, j'ai un retour de courrier. On est intéressé, on vient voir. Un contact avec les frères de la communauté et le courant est passé assez rapidement. Et donc depuis janvier 2020 jusqu'en octobre 2020, bien nous avons eu des échanges, des temps de travaux communs, de réflexions, de négociations aussi, pour aboutir à voir comment transmettre le patrimoine.
Le village de François, imaginé et cofondé par Étienne Villemain, propose des lieux de vie partagés entre des personnes fragiles qui ont vécu à la rue, qui ont vécu la prostitution, des personnes sans souffrance psychologique, porteuses de handicap, des célibataires, des retraités, des femmes enceintes en difficulté, des migrants, des familles, des parents isolés, et avec leurs accompagnateurs. Et ce, autour de trois axes. Le vivre ensemble, l'activité économique, l'écologie intégrale, des valeurs, des lignes de conduite qui, depuis des siècles, s'inscrivent dans celles de Cîteaux.
Nous souhaitions assurer une continuité avec notre projet, enfin avec ce qui allait suivre, entre notre projet de vie et ce qui allait suivre. Et puis le dernier élément, donc le troisième, le premier c'était encyclique Laudato Si, le deuxième c'est l'église pauvre pour les pauvres, aller aux périphéries, et le troisième élément c'est que nous avons dans notre monastère un bienheureux Marie-Joseph, qui lui aussi est un petit du royaume de Dieu, donc avec plein de difficultés intellectuelles pour obtenir ou parvenir à faire des études, d'une grande richesse humaine et spirituelle, mais une pauvreté intellectuelle. Et on s'est dit, ben voilà, donc c'est un autre type de pauvreté que l'Église va pouvoir servir à travers le village de François. Et on s'est dit, ben c'est finalement le Père Cassan qui va... C'est moins le village de François qui va garder les reliques du Père Cassan que le Père Cassan qui va protéger, voilà.
Sous la protection.
Voilà, sous la protection de Marie-Joseph. Donc on a convenu avec le village de François, mais aussi avec notre ordre, puisque les reliques restent, entre guillemets, c'est une propriété ecclésiale, si on peut dire comme ça. Donc ce n'est pas une propriété exclusive de l'ordre cistercien. Enfin, nous en sommes les dépositaires. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi des reliques. Et donc on a réfléchi avec le village de François, avec l'évêque du diocèse et avec notre ordre pour savoir que faire de ces reliques. Parce qu'on s'est dit, peut-être si le village de François ne souhaite pas les garder, il faut les transférer ailleurs. Puis finalement, le village de François dit non, on est très heureux de garder les reliques. Donc voilà, les reliques resteront sur place, le lieu de dévotion au Père Cassan restera ici, la crypte sera accessible, la chapelle dédiée au Père Cassan normalement devrait l'être aussi, le petit musée aussi, même s'il y aura probablement des aménagements, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Donc la crypte où les reliques sont conservées restera ouverte au public.
Au terme de cette célébration recueillie, priante et joyeuse, le passage de relais se fait entre les moines cisterciens et le village de François. Moment de profonde émotion, rempli d'espérance. Cette terre ensemencée par les frères cisterciens continuera à porter du fruit avec le village de François. Jérôme Dutoit, membre du village.
Alors non, c'est vraiment d'une manière ou autre. C'est aussi quand on voit la vie du père Joseph Cassan. C'est vraiment un pauvre chez les pauvres. Et là, c'est vraiment de l'accueil de pauvres. Donc effectivement, il y a vraiment une continuité de cette manière-là. continuité d'accueil et d'accueil vraiment des plus petits et des plus pauvres, parce qu'on est persuadé que c'est par eux qu'on va retrouver un autre sens à la vie et de revenir aux valeurs essentielles de la vie, de notre vie sur Terre. C'est pas une communauté, le village de François n'est pas une vie communautaire. Nous accueillons des pauvres et des familles. Les familles vivent en famille, ce qu'elles ont à vivre, et leur intimité familiale est très importante. Mais c'est vraiment une vie de village avec un centre du village où les personnes fragiles sont accueillies au centre du village et du coup recréer la vie de village d'autrefois qui existait il n'y a pas si longtemps et que les médias, enfin les moyens de communication nous empêchent aujourd'hui de le faire. Donc on veut vraiment revenir à ces valeurs fondamentales d'amitié entre des personnes fragiles, des familles, entre toutes les personnes qui constituent la société.
Non, nous ne serons pas orphelins. Depuis 168 ans, les moines blancs ont ensemencé cette terre. Ils sont là à jamais. Dans les fermages alentours, les labours, les élevages de moutons, dans les ruches et les abeilles qui butinent. Ils sont là à jamais à travers la dévotion au bienheureux Marie-Joseph Casson. Ils sont là à jamais dans le cloître de l'abbaye, à même le sol, dans ce petit carré où la plupart d'entre eux reposent. Non, nous ne serons pas orphelins. Il nous laisse un héritage, le village de François.